Chapitre 6. Quand je t'ai rencontré. Il faut avoir un chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Friedrich Nietzsche. Déflagration, cri de femme, appel au secours. Un bruit de verre brisé me tira de mon cauchemar. J'ouvris les yeux dans un sursaut. La chambre était plongée dans l'obscurité et la pluie frappait contre les vitres. Je me redressai péniblement, la gorge sèche. J'étais fiévreux et trempé de sueur. Je respirais difficilement, mais j'étais toujours vivant. Je jetai un coup d'œil au radio-réveil, 3h16. Il y avait de l'agitation au rez-de-chaussée et j'entendais distinctement les persiennes claquer contre le mur. J'essayais d'allumer la lampe de chevet, mais comme souvent, l'orage avait fait sauter le courant sur Malibu Colony. Je me levai avec difficulté. J'avais des nausées, la tête lourde. Mon cœur cognait dans ma poitrine comme si je venais de courir le marathon. Pris de vertige, je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas chuter. Les somnifères ne m'avaient peut-être pas tué, mais ils m'avaient expédié dans des limbes d'où je n'arrivais pas à m'extirper. Mes yeux surtout m'inquiétaient. C'était comme si on les avait rayés et ils me brûlaient tellement que j'avais du mal à les garder ouverts. Torturé par la migraine, je me fis violence pour descendre les quelques marches en me tenant à la rampe. À chaque pas, j'avais l'impression que mon estomac se retournait et que j'allais vomir au milieu des escaliers. Dehors, la tempête faisait rage. Sous le feu des éclairs, la maison ressemblait à un phare au milieu d'une tempête. Arrivé en bas des marches, je constatai les dégâts. Le vent s'était engouffré par la baie vitrée restée grande ouverte, renversant au passage un vase en cristal qui s'était brisé sur le sol, et la pluie torrentielle commençait à inonder mon salon. Et merde! Je me hâtai de refermer la vitre et me traînai dans la cuisine pour dénicher une boîte d'allumettes. C'est en revenant dans le séjour que je sentis soudain une présence suivie d'une respiration. Je fis volte-face et... Une silhouette féminine, svelte et gracile, se détachait en ombre chinoise dans la lumière bleue nuit du dehors. Je sursautai puis écarquillai les yeux. Pour le peu que j'en voyais, la jeune femme était nue, une main posée sur son bas-ventre, l'autre cachant sa poitrine. Manquait plus que ça. « Qui êtes-vous » demandai-je en m'approchant et en la détaillant de haut en bas.
« Et ne vous gênez pas ? »
cria-t-elle en attrapant le plaid en laine d'Écosse posé sur le canapé pour se l'enrouler autour de la taille.
« Comment ça ne vous gênez pas ? C'est le monde à l'envers. Je vous signale que vous êtes chez moi. »« Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour... »«
Qui êtes-vous ? » demandai-je de nouveau.
« Je pensais que vous me reconnaîtriez ?»
Je la distinguais mal, mais sa voix en tout cas ne me disait rien, et je n'avais nulle envie de jouer aux devinettes. Je grattai une allumette pour enflammer la mèche d'une vieille lampe tempête chinée sur le marché aux puces de Pasadena. Une lumière douce colora la pièce et me révéla le physique de mon intruse. Une jeune femme d'environ 25 ans, au regard clair, mi-effarouché, mi-mutin, et à la chevelure couleur de miel qui ruisselait de pluie.
Je ne vois pas comment j'aurais pu vous reconnaître. On ne s'est jamais rencontrés.
Elle laissa échapper un petit rire moqueur, mais je refusai d'entrer dans son jeu.
« Bon, ça suffit, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites là ?»«
C'est moi ?»«
Billy ?»
dit-elle comme une évidence en remontant le plaid sur ses épaules. Je remarquai qu'elle frissonnait et que sa bouche tremblait. Pas étonnant. Elle était trempée et la salle était glaciale.
« Je ne connais pas de Billy !»
répondis-je en me dirigeant vers le grand placard en noyer qui me servait de fourre-tout. Je fis coulisser la porte et, en fouillant dans un sac de sport, je mis la main sur un drap de plage au motif hawaïen.
« Tenez !»
criai-je en lui jetant la serviette depuis l'autre bout du séjour. Elle l'attrapa au vol, s'essuya les cheveux et le visage en me défiant du regard.
« Billy Donnelly !»
précisa-t-elle en guettant ma réaction. Je restai plusieurs secondes immobile, sans vraiment comprendre le sens de ses paroles. Billy Donnelly était un personnage secondaire de mes romans. Une fille plutôt attachante mais un peu paumée qui travaillait comme infirmière dans un hôpital public de Boston. Je savais que beaucoup de lectrices s'étaient reconnues dans son personnage de Girl Next Door qui enchaînait les histoires d'amour foireuses. Interloqué, je fis quelques pas dans sa direction et braquai la lampe sur elle. De Billy, elle avait l'allure élancée. Dynamique et sensuelle, la frimousse lumineuse, le visage un peu anguleux, piqué de discrètes taches de rousseur.
Mais qui était cette fille? Une fan obsessionnelle? Une lectrice qui s'identifiait à mon personnage? Une admiratrice en mal de reconnaissance?
Vous ne me croyez pas, c'est ça?
Demanda-t-elle en s'installant sur un tabouret derrière le bar de la cuisine et en attrapant dans la corbeille de fruits une pomme qu'elle mordit à pleines dents. Je posai ma lampe sur le comptoir de bois. Malgré la douleur aiguë qui me cisaillait le cerveau, j'étais bien décidé à garder mon calme. Les comportements intrusifs auprès de célébrités étaient monnaie courante à Los Angeles. Je savais qu'un matin, Stephen King avait trouvé un homme armé d'un couteau dans sa salle de bain, qu'un scénariste en herbe s'était introduit chez Spielberg juste pour lui faire lire un script et qu'un fan déséquilibré de Madonna avait menacé de lui trancher la gorge si elle refusait de l'épouser. Pendant longtemps, j'avais été épargné par ce phénomène. Je fuyais les plateaux télé, refusais la plupart des demandes d'interview et, malgré l'insistance de Milo, ne me mettais pas en scène pour la promotion de mes livres. Je prenais comme une fierté le fait que mes lecteurs apprécient mes histoires et mes personnages plus que ma modeste personne. Mais la médiatisation de mon histoire avec Aurore m'avait fait basculer malgré moi de la catégorie des écrivains à celle moins prestigieuse des people.
Hey « Eh oh, il y a quelqu'un au bout du fil ?»
m'interpella Billy en agitant les bras.
« On dirait que vous avez deux tensions avec vos yeux en couille d'hirondelle. »
Même vocabulaire imagé.
« Bon, ça suffit à présent. Vous allez passer quelque chose sur le dos et rentrer chez vous sagement. »« Je crois que j'aurais du mal à rentrer chez moi. »
« Pourquoi ?»«
Parce que chez moi, c'est dans vos livres. Pour un petit génie des lettres, je vous trouve un peu long à la détente. »
Je soupirai sans céder à l'exaspération. J'essayais de la raisonner. « Mademoiselle, Billy Donnelly est un personnage de fiction. »
« Jusque-là, je suis d'accord. »
« C'est toujours ça de prix. »
« Or, cette nuit, dans cette maison, nous sommes dans la réalité. » « Ça me paraît clair. »
« Bon, on avance. »
« Donc, si vous étiez un personnage de roman, vous ne pourriez pas être là. » « Si. »
« C'était trop beau. »
« Expliquez-moi comment, mais expliquez-le vite, car j'ai vraiment sommeil. » « Parce que je suis tombé. »
« Tombé d'où ?»«
Tombé d'un livre. Tombé de votre histoire, quoi. »
Je la regardais. Incrédule. Sans comprendre un traître mot de ses divagations.
« Je suis tombée d'une ligne, au milieu d'une phrase inachevée »,
ajouta-t-elle en désignant sur la table, pour me convaincre, le livre que m'avait donné Milo au déjeuner. Elle se leva et m'apporta l'exemplaire qu'elle ouvrit, page 266. Pour la deuxième fois de la journée, je parcourus le passage où l'histoire s'arrêtait brutalement. Billy essuya ses yeux noircis par des coulées de mascara. « S'il te plaît, Jack, ne t'en va pas comme ça. » Mais l'homme avait déjà enfilé son manteau. Il ouvrit la porte, sans un regard vers sa maîtresse. « Je t'en supplie, » hurla-t-elle en tombant.
« Vous voyez, c'est écrit « hurla-t-elle en tombant ». Et c'est chez vous que je suis tombé. »
J'étais de plus en plus hébété. « Pourquoi ce genre de choses tombait-il » c'était le cas de le dire, « toujours sur moi. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça ? » J'étais sans doute un peu stone. Mais pas assez pour dérailler à ce point. J'avais juste pris quelques somnifères, pas du LSD. Quoi qu'il en soit, cette fille n'existait peut-être que dans ma tête. Elle n'était probablement que la manifestation fâcheuse d'une surdose médicamenteuse qui me faisait délirer. J'essayais de m'accrocher à cette idée, tentant de me convaincre que tout cela n'était qu'une hallucination vertigineuse qui traversait mon cerveau. Mais je ne pus pour autant m'empêcher de remarquer.
« Vous êtes complètement frappadingue !» Et c'est un euphémisme.
On a déjà dû vous le dire, n'est-ce pas?
Et vous, vous feriez mieux d'aller vous recoucher, parce que vous avez la tête dans le cul. Et ça, ce n'est pas un euphémisme. Oui, je vais aller me coucher, parce que je n'ai pas de temps à perdre avec une fille qui yoyote de la cafetière. J'en ai assez de vos insultes. Et moi, j'en ai assez de me coltiner une détraquée tombée de la lune qui débarque chez moi, à poil, à 3h du matin.
J'essuyais les gouttes de transpiration sur mon front. De nouveau, j'avais du mal à respirer et des spasmes d'anxiété contractaient les muscles de mon cou. Je le sortis pour composer le numéro du poste de sécurité chargé de veiller sur la résidence.
« C'est ça, foutez-moi dehors »
cria-t-elle.
« C'est tellement plus simple que de m'aider. »
Il ne fallait pas que j'entre dans son jeu. Bien sûr, quelque chose me touchait chez elle. Sa bouille de manga, sa fraîcheur rieuse, son petit côté garçon manqué qu'atténuaient ses yeux de lagon et ses jambes interminables. Mais ses propos étaient trop incohérents pour que je puisse faire quelque chose pour elle. Je composai le numéro et attendis. première sonnerie. J'avais le visage en feu et la tête de plus en plus lourde. Puis ma vision se troubla jusqu'à ce que les objets se dédoublent. Deuxième sonnerie. Il fallait que je me passe un peu d'eau sur le visage. Il fallait que... Mais autour de moi, le décor perdit de sa réalité et tout vacilla. J'entendis la troisième sonnerie qui résonnait très loin. Puis je perdis connaissance et m'écroulai sur le sol. Chapitre 7. Billy au clair de lune. Les muses sont des fantômes et il leur arrive d'entrer en scène sans y être invité. Stephen King. La pluie s'abattait toujours sans relâche, laissant de larges balafres sur les vitres qui tremblaient sous les tourbillons du vent. Le courant était revenu dans la pièce, même si les lampes grésillaient encore par intermittence. Malibu Colony, 4h du matin. Emmitouflé dans une couverture, Tom était profondément endormi sur le canapé. Billy avait allumé les radiateurs et enfilé un peignoir trop grand pour elle. Une serviette nouée sur la tête, une tasse de thé à la main, elle déambulait dans la maison, ouvrant les placards et les tiroirs, se livrant à une inspection minutieuse depuis le contenu des armoires jusqu'à celui du réfrigérateur. Malgré le bordel qui régnait dans le salon et la cuisine, elle aimait l'esprit bohème et rock'n'roll de la décoration. La planche de surf en bois laqué suspendue au plafond, la lampe de corail, la longue vue en laiton nickelé, le jukebox d'époque. Elle passa une demi-heure à fureter dans les rayons de la bibliothèque, butinant ça et là au gré de son inspiration. Sur le bureau se trouvait l'ordinateur portable de Tom. Elle l'alluma sans manifester la moindre gêne, mais se retrouva bloquée par un mot de passe. Elle essaya quelques codes tirés de l'univers de l'auteur, mais aucune de ses tentatives ne lui permit de pénétrer les arcanes de la machine. Dans les tiroirs, elle mit la main sur une dizaine de lettres de lecteurs envoyées à Tom des quatre coins du monde. Certaines enveloppes contenaient des dessins, d'autres des photos, des fleurs séchées, des gris-gris, des médailles porte-bonheur. Pendant plus d'une heure, elle lut avec attention chacun de ses courriers pour constater avec surprise qu'un nombre important parlait d'elle. Sur le plan de travail, d'autres missives s'entassaient que Tom n'avait pas même pris la peine d'ouvrir. Factures, relevés bancaires, invitations à des premières, copies d'articles de journaux envoyés par le service de presse de Doubleday. Sans hésiter longtemps, elle décacheta la plupart des enveloppes, éplucha la liste des dépenses de l'écrivain, se plongeant dans le compte-rendu qu'avaient fait les journaux de sa rupture avec Aurore. Tout en lisant, elle jetait de fréquents regards vers le canapé, s'assurant que Tom était toujours endormi. À deux reprises, elle quitta son siège et remonta sa couverture comme elle l'eût fait pour veiller un enfant malade. Elle regarda aussi longuement le diaporama des photos d'Aurore présentées dans le cadre numérique posé sur le manteau de la cheminée. La pianiste dégageait une légèreté et une grâce hors normes. Quelque chose d'intense et de pur. Devant ces clichés, Billy ne put s'empêcher de se demander naïvement pourquoi certaines femmes recevaient autant à la naissance, beauté, éducation, richesse, dons, et d'autres si peu. Puis elle se planta dans l'embrasure d'une fenêtre et observa la pluie qui tapait contre les carreaux. Elle voyait son reflet dans la vitre et elle n'aimait pas l'image qu'elle lui renvoyait. Sur son physique, elle avait toujours été partagée. Elle trouvait son visage anguleux et son front trop large. Son corps dégingandé la faisait ressembler à une sauterelle. Non, elle ne se trouvait pas très jolie, avec sa poitrine discrète, ses hanches étroites, son allure gauche de grande gigue et ses taches de rousseur qu'elle détestait. Alors bien sûr, il y avait ses jambes, longues à l'infini. Son arme fatale au jeu de la séduction, pour reprendre une expression utilisée dans les romans de Tom. Des jambes qui affolaient beaucoup d'hommes, mais pas toujours les plus gentlemen d'entre eux. Elle chassa ses pensées de son esprit et, fuyant l'ennemi dans la glace, quitta son poste d'observation pour visiter l'étage. Dans le dressing de la chambre d'amis, elle découvrit une penderie impeccablement rangée. Sans doute des vêtements oubliés par Aurore et qui témoignaient de la soudaineté de sa rupture avec Tom. Elle inspecta cette caverne d'Ali Baba avec des yeux brillants de petite fille. Elle contenait certains incontournables de la mode. Une veste Balmain, un trench Burberry beige, un sac Birkin, un vrai,
et un jean Notify. Dans les tiroirs à chaussures coulissants, elle trouva carrément le Saint Graal. Une paire d'escarpins signés Christian Louboutin. Miracle ! Ils étaient à sa taille. Devant le miroir, elle ne put s'empêcher de les essayer, s'offrant un quart d'heure Cendrillon avec un jean clair et un top en satin. Elle termina sa visite de la maison en pénétrant dans la chambre de Tom. Elle fut surprise de voir que la pièce baignait dans une lumière bleue, alors qu'aucune lampe n'était allumée. Elle se tourna vers la toile accrochée au mur et regarda, fascinée, la douce étreinte des amants. Perçant la pénombre, le tableau de Chagall avait quelque chose d'irréel et semblait phosphorer dans la nuit.